Paulhache de Jérôme Vuittenet, chapitre 30. Un moteur électrique ? Sébastien n'en croyait pas ses oreilles. Depuis plusieurs mois, il travaillait à l'intégration du moteur à hydrogène sur le châssis conçu par le département fabrication. Jean-Clément Charles lui demandait aujourd'hui de tout abandonner pour se consacrer à la mise en place d'un moteur électrique. Il s'agit juste de réaliser un prototype roulant pour le 6 mai. Vous pourrez reprendre votre travail sur la pile à combustible juste après, dit le PDG pour essayer de rassurer l'ingénieur. Pour le 6 mai ? Mais on n'aura jamais quelque chose de fiable pour cette date. C'est dans quelques jours. La fiabilité n'est pas notre principal souci pour cette fois. Le prototype ne roulera que quelques mètres et nous serons au volant pour contrôler que tout se passe bien. Mais les journalistes, que vont-ils penser de ce revirement technique de dernière minute ? Les journalistes n'en sauront rien. Pour eux, le prototype roulera à l'hydrogène. Nous laisserons d'ailleurs le réservoir bien visible et cacherons la batterie. Cacher la batterie ? Vous avez une idée de la taille d'une batterie de voiture électrique ? Je ne vous demande pas une autonomie de 200 km. Trouvez un moteur de tondeuse électrique et adaptez-le pour que la voiture puisse rouler une trentaine de mètres. Cela suffira. C'est du travail de sagouin et c'est une duperie. Je refuse de participer à cette mascarade. D'autant que je ne suis pas certain que cela soit seulement possible dans les délais impartis. Vous n'êtes pas là pour juger des choix stratégiques de l'entreprise, monsieur Prost. Vos états d'âme n'ont pas d'importance dans ce projet d'envergure nationale. » Le PDG usa de son autorité et fit changer la tonalité de la discussion en une seule phrase. Par l'emploi de la formule « Monsieur Prost », il mettait de la distance entre son employé et lui, et l'allusion aux enjeux nationaux rendait les arguments de Sébastien soudain sans objet. L'ingénieur encaissa la remarque sans quitter Charles des yeux, estimant qu'il avait passé l'âge de se faire traiter comme un enfant. Un enfant qu'il était resté pourtant à bien des égards, lorsqu'il jouait encore à des jeux vidéo ou qu'il ramenait son linge sale à laver à sa maman chaque week-end. Sans charge de famille, sans engagement dans la vie réelle, seule son existence virtuelle pouvait témoigner de son sens de la responsabilité et de sa véritable personnalité adulte. Modérateur apprécié sur plusieurs forums de discussion, engagé dans la défense des logiciels libres, créateur de talents à ses heures perdues, son allure d'éternel adolescent ne laissait pas paraître sa maturité réelle. Jean-Clément Charles, qui avait deux fois son âge, avait un côté paternel assez agaçant, qui se manifestait par de régulières crises d'autorité. Au lieu d'associer son employé dans la recherche d'une solution, il lui imposait sa vision des choses, en omettant de lui expliquer le contexte du problème. Sébastien quitta Charles des yeux pour fixer son fond d'écran qui représentait Yoshi, tirant la langue en direction d'une pomme verte flottant dans l'air. Il réfléchit un instant, puis lâcha les armes. « Ok, je vais regarder ce que je peux faire. » Jean-Clément Charles se leva, satisfait, et croisa Frédéric en sortant du bureau. Il revenait de l'étage supérieur, où Élodie l'avait appelé pour un dépannage informatique. Il perçut d'emblée l'atmosphère électrique dans le regard du PDG et la mine de son collègue, et son sourire béat s'éteignit donc aussitôt. Il attendit que Charles sorte pour interroger Sébastien. « Y a un blême ?» Il faut qu'on mette un moteur électrique sur le proto.
De quoi ?
Pour le 6 mai. Ils veulent que le truc roule à tout prix. Il faut qu'on monte un moteur à l'arrache.
Mais pourquoi faire ?
Il ne me l'a pas dit, évidemment. On ne peut jamais savoir ce qu'il a derrière sa tête de caboche. Les deux ingénieurs gardèrent le silence pendant quelques secondes, chacun analysant ses nouvelles données en scrutant son écran. Les yeux de Sébastien s'illuminèrent alors.
Le phène.
Le ? Le moteur du Fenwick de l'atelier. Ne me dis pas que... On n'a pas le temps de faire dans la dentelle. On va démonter le moteur du transpalette et on va le coller sur le châssis.
Mais... Et les batteries ? Il pèse 2 tonnes, le transpalette.
On peut ne prendre qu'une seule unité de batterie. Il y en a 4.
Mais l'autonomie ?
On s'en fout de l'autonomie. Il veut juste pouvoir faire quelques mètres avec. On va rouler à 20 ou 30 km heure, ce sera bien suffisant. C'est en intérieur, je te rappelle.
Tu n'as pas tort. Tu penses qu'on peut démonter ça facilement ?
Viens, on va voir Gravard. Sébastien avait retrouvé toute son énergie. Il se leva d'un bond et entraîna Frédéric avec lui dans le bâtiment B qui abritait les ateliers. L'arrivée impromptue des deux jeunes ingénieurs dans l'atelier attira les regards méfiants des ouvriers qui y travaillaient. René Martinez reconnut ses deux collègues,
contre lesquels il n'avait pas de grief particulier, si ce n'est que, comme tous ses supérieurs hiérarchiques, il ne l'écoutait jamais. Il les vit pénétrer dans le bureau de Gravard et se mit à imaginer ce qu'il pouvait se dire et comment cela allait impacter son travail. Personne dans l'entreprise, à part le PDG, Frédéric et Sébastien, n'avait eu connaissance du changement d'orientation technique pour la présentation du 6 mai. L'information était confidentielle et devait le rester. Charles avait insisté sur ce point. Depuis l'atelier, Martinez voyait les trois hommes gesticuler dans le bureau de Gravard sans qu'ils ne puissent deviner le sujet de leur discussion. Puis il vit les autres ouvriers éteindre leurs machines et se diriger vers les vestiaires. Il regarda sa montre, midi. Il quitta lui aussi l'atelier après s'être changé et remarqua que les trois hommes palabraient toujours. À son retour, vers 13h15, l'endroit était désert. La sonnerie stridente du téléphone de l'atelier perça ses tympans déjà bien fatigués. Il décrocha. « Martinez, à l'atelier ?»«
Une livraison pour vous. »«
Ok, j'arrive. » Il raccrocha et alla chercher dans son bureau la clé du Fenwick. Il monta dans l'engin, tourna la clé, mais lorsqu'il appuya sur la pédale pour démarrer, il resta cloué sur place.